ce numéro, donc l'introduction est rédigée donc par son directeur, Henri Corcarès. S'intitule donc Le corps reproductif, mais en fait il met volontairement l'accent sur ce qui est appelé donc au choix dans le numéro soit les nouvelles technologies de la reproduction, donc globalement donc toutes les techniques de procréation médicalement assistée et la GPA, ou alors on appelle ça les biotechnologies reproductives. Et en fait un des partis pris de ce numéro, selon Henrik Borkeres dans l'introduction, c'est de montrer que les évidences issues des biotechnologies reproductives ou MTR contemporaines s'inscrivent dans une continuité avec les situations observées par les ethnologues dans d'autres contextes culturels. Donc c'est vraiment une démarche d'anthropologue, telle que d'ailleurs vous la décriviez aussi, donc avec une volonté de comparer, voilà. Et donc en gros, ce numéro veut insister donc sur la continuité avec les formes de la parenté, telles que décrites par d'autres anthropologues dans les aires culturelles, et donc pas sur la notion de rupture, enfin mettre en cause cette notion de rupture souvent associée à ces NTR pour le sens commun. Et donc on l'a déjà dit, vous l'avez déjà dit Laurence Brunet, mais il y a la volonté aussi de ne pas résumer, donc comme l'ont fait beaucoup d'anthropologues, cette parenté qui est une structure sociale large, à la seule filiation, donc reconnaissance d'un parent et de son enfant, enfin du lien entre un parent et son enfant, et notamment justement de cerner ce qu'il y a de corporel dans la parenté. Et donc, Henrik Borkeres, alors même si on ne retrouve pas non plus énormément cette notion dans l'ensemble des articles, insiste sur le fait, donc dans cette introduction, que la notion de corps relationnel est très importante dans le numéro. Donc justement, donc le corps non comme donné en soi, mais comme pris dans un tissu de relations sociales. Et voilà. Et donc en fait, il veut cerner les ambiguïtés des métamorphoses du corps reproductif, donc entre permanence ou révolution, et interroger donc la complexité de la part de la parenté dans ces nouvelles technologies de la reproduction. Alors j'ai distingué, je ne vais pas présenter tous les articles parce qu'il y en a 14, il y a 15 auteurs, donc c'est quand même assez gros. Voilà. J'ai fait des choix. D'ailleurs, j'ai pas choisi de présenter dans beaucoup votre article, Séverine Mathieu. Donc voilà, si j'avais su, je suis désolée. Je suis vraiment désolée.
Comme ça, je peux vous en parler.
Voilà. J'ai trois axes qui, pour moi, j'espère qu'ils sont plutôt exhaustifs et qui rendent justice à la diversité des questionnements de ce numéro, qui proposent une interprétation de tous les questionnements rencontrés par les auteurs. Donc le premier axe, j'ai trouvé que les auteurs s'interrogeaient sur la question de la circulation entre les personnes de ces substances de la parenté, donc pour reprendre notamment le terme d'Henrik Borkeres. Deuxièmement, j'ai trouvé qu'il y avait un questionnement aussi sur la réinterprétation du sens donné au biologique autour de la parenté. Et en troisièmement, j'ai voulu insister sur les questionnements, donc sur les effets de la globalisation des biopolitiques de la reproduction. Donc en premier lieu, les articles se posent la question de la circulation interpersonnelle de ces substances de la parenté, et notamment sur... une sous-partie que j'ai appelée « D'un corps à l'autre, un brouillage sur les frontières des corps et de la parenté ». Donc en fait, les articles font beaucoup, quasiment tous, le constat que ces biotechnologies reproductives, donc gamètes, GPA notamment, induisent donc un brouillage sur ces frontières du corps et de la parenté, c'est-à-dire qu'on est dans des situations qui paraissent ambiguës aux acteurs qui sont étudiés dans les articles. Ici, donc, par exemple, on découple la gestation du fait d'être mère, donc avec la GPA qui est étudiée par Delphine Lance, ou la transmission du matériel génétique de la filiation d'état civil, donc avec le don de gamètes. Et donc, c'est des situations où les individus composent des discours, des justifications pour gérer ces situations donc, qui leur paraissent ambiguës. Par exemple, je vais développer... la question des individus qui gèrent cette question du don de matériel reproductif. Donc face à la question du don de matériel reproductif, les individus adoptent des stratégies, donc au premier rang desquelles donc la mise à distance du donneur et du receveur. Donc cette mise à distance est institutionnalisée, souligne plusieurs textes, donc à travers notamment la question de l'anonymat qui est largement abordée. Donc la mise à distance du donneur, donc la personne qui donne ses gamètes, c'est quelque chose qui est reconnu défendu par les parents, et notamment la sociologue Elisabete Imaz, alors je ne sais pas comment ça se prononce parce que je ne suis pas hispanophone, donc si je fais une faute, je suis désolée, qui a travaillé, donc sur, je cite le long de son article, « La maternité partagée chez les couples de lesbiennes », elle parle de l'inopportun statut du sperme. Et donc, je la cite, les femmes lesbiennes qui font appel à une... Donc, elle a étudié donc, des couples de femmes lesbiennes qui faisaient appel en Espagne à des donneurs de sperme. Et donc, les femmes lesbiennes qui font appel à une clinique savent que le sperme provient de donneurs anonymes, ce qui anonymise la substance et neutralise sa capacité à transmettre une identité. Et elle écrit aussi, donc un tout petit peu plus haut que cette phrase, l'expression anglaise « no face » est celle qui exprime le mieux la relation qu'elles veulent avec le donateur. Et en gros, on a l'impression que pour ces enquêtés, qui sont encouragées aussi dans ce sens-là par les médecins, qui défendent le fait d'avoir un donneur anonyme plutôt qu'un donneur proche, l'anonymat est en quelque sorte la condition pour pouvoir recevoir ces substances qui proviennent d'un autre corps et pour pouvoir produire de la parenté. Du côté des donneurs étudiés dans les articles, ils défendent aussi donc la distance, je crois que vous le soulignez, vous aussi Séverine Mathieu, dans votre article sur le don d'embryon. Ils défendent aussi la distance, l'anonymat envers le receveur. Et ils relient ça au fait donc, qu'ils n'ont pas l'impression de devenir parents en donnant des gamètes, donc ils n'ont pas envie qu'on leur donne l'impression que c'est de la parenté qui s'échange. Et notamment, c'est souligné dans l'article de Anna Molas et Yoann Bestard, sur lequel je vais revenir plus tard, qui s'appelle « En Espagne, le don d'ovules entre intérêt, solidarité et précarité ». Donc à travers ça, je vais y revenir, mais les acteurs étudiés gèrent souvent cette question de « qu'est-ce qui fait parenté ?». Il y a un consensus quand même sur lequel insistent tous les articles, quasiment. C'est ce qui fait parenté, ça a l'air d'être, c'est défendu comme la parenté donc pratique, selon le terme de Florence Weber, le fait de vouloir, d'élever l'enfant, d'être présent au quotidien. En fait, ces parents d'intention, comme on dit, défendent donc une parenté par projet qui s'inscrit dans le contexte conjugal. Et d'ailleurs, c'est intéressant, mais les discours et les interprétations biologiques, on y reviendra, diffèrent parfois selon les contextes. D'ailleurs, donc, parce qu'en fait, pour certains, donc les donneurs d'embryons étudiés par vous, Séverine Mathieu, certains défendent que c'est la gestation qui fait parenté, c'est-à-dire que c'est le fait de lui mettre en avant le fait que c'est le fait de porter, d'accueillir un enfant donc in utero qui fait qu'on devient son parent. Et pour d'autres, donc les gestatrices pour autrui qui sont étudiées par Delphine Lance, c'est le matériel biologique. Donc elles mettent en avant le fait qu'elles ne font que rendre service à des parents d'intention en prenant soin de leur embryon, un peu comme le ferait une nounou, par exemple. Cette question de l'anonymat des donneurs, j'ai envie d'insister sur deux articles qui soulèvent des questions morales, qui discutent des questions qui posent des problèmes moraux aux acteurs engagés dans ces situations. Et j'ai choisi de développer deux dimensions, donc à travers deux articles que j'avais envie de présenter. Le premier s'intéresse à la dichotomie altruisme-intérêt économique, donc qui pose la question du fait est-ce que c'est un don qu'on fait pour faire un don de gamètes ou c'est une marchandisation du corps. Et donc, dans ce numéro, Anna Molas et Joan Bestard proposent un article sur le don d'ovules en Espagne qui s'intitule « En Espagne, le don d'ovules entre intérêt, solidarité et précarité ». Et donc, c'est une réflexion appuyée donc, sur une étude ethnographique, donc sur des entretiens avec 7 donneuses d'ovules. Ils démontrent que l'engagement de ces femmes ne se résume ni totalement à l'altruisme, parce qu'en fait, elles perçoivent des compensations économiques qui oscillent, donc, d'après ce que j'ai compris, entre 900 et 1100 euros pour un don. Leur engagement ne se résume ni totalement à l'altruisme, ni totalement à la stratégie économique, mais qu'il oscille en fait entre les deux, et qu'elles mêlent les deux types d'arguments pour justifier leurs décisions. On a par exemple Noah, 24 ans, qui explique sa décision par le fait donc, d'abord qu'elle veut résoudre un problème financier, mais aussi qu'elle veut le faire de la meilleure manière possible, en aidant une autre femme. Et donc, en fait, pour beaucoup, donc la compensation, enfin, je trouve cette formulation intéressante, c'est que la compensation économique est le moteur de l'action pour les auteurs, mais que la solidarité finit par être le noyau dur du sens accordé au processus de don. Et notamment, les médecins les incitent à voir les choses dans ce sens, et la requalification de l'acte en acte altruiste aide les donneuses, notamment à supporter la lourdeur des démarches de don. Ensuite, un deuxième article insiste sur le lien qui pourrait exister entre ces nouvelles techniques de la reproduction et l'eugénisme. Et donc c'est un aspect intéressant que j'ai voulu extraire de l'article de Jean-Hugues Deschaux et Mérylis Darius, qui s'intitule « Les familles homoparentales féminines dans la bioéconomie reproductive ». Et alors, en fait, cet article porte sur l'utilisation de banques de sperme privées, donc Cryos International European Sperm Bank, par des couples lesbiens pour accéder à la parenté. Et en fait, l'article parle d'une éthique minimale, c'est le terme, de ces banques de sperme autour de la question de l'eugénisme. Parce qu'en fait, ces banques de sperme proposent au choix des couples qui les sollicitent. En fait, sur Internet, on peut trouver en ligne, c'est assez facilement accessible, le profil détaillé des donneurs avec un certain nombre d'informations, parmi lesquelles couleur des yeux, cheveux, race, donc c'est formulé comme ça, appartenance ethnique, c'est formulé comme ça, mais aussi donc profil psychologique avec avis du professionnel donc de santé sur le donneur et test de caution émotionnelle. Et en fait, donc je cite, les services proposés jouent sur la croyance en une hérédité naturelle des traits. Et donc, la cliente soucieuse de transmission génétique doit pouvoir trouver dans les informations à sa disposition de quoi diminuer les aléas de la reproduction. Voilà. Et donc, en fait, donc la position de ces banques de sperme, c'est qu'ils répondent à une demande, ils renvoient les couples à leurs responsabilités. Et en fait, c'est qualifié par les auteurs d'un eugénisme du libre choix, c'est-à-dire que Cryos défend le droit à pouvoir, pour ceux qui le souhaitent, à pouvoir contrôler sa transmission génétique. Voilà, mais alors par rapport à ça, ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il faut relativiser quand même cette importance d'un eugénisme positif, c'est-à-dire que la position des familles homoparentales qui font recours à ces banques est ambiguë, au contraire. En fait, elle est sous-tendue avant tout par un souci de normalité, c'est-à-dire offrir la vie la plus normale possible à l'enfant, avec un primat donc, du conjugal, dans la définition de la parenté. Et donc, en gros, on veut choisir le donneur qui s'insère le mieux dans cette sphère conjugale, donc au point de vue notamment des ressemblances physiques. Et c'est à ça aussi que servent la sélection des traits du donneur. C'est avant tout, c'est justifié comme la ressemblance physique. Donc, je vais passer à mon grand 2, qui est, en gros, s'interroger sur la place du corporel, du biologique, dans la définition de la parenté. Et donc, une grosse question que se posent les auteurs, c'est celle de la réinterprétation du sens donné au biologique autour de ces nouvelles technologies de la reproduction. Et notamment, une question qui était assez centrale, il me semblait, peut-être que je me trompe, c'est la question, est-ce qu'il y a ou pas, est-ce que ces pratiques, ces nouvelles technologies de la reproduction, sont des pratiques biologisantes ? Alors déjà, pour le sens commun, c'est un peu bizarre, parce qu'en fait, on aurait tendance à dire que ces NTR débiologisent la parenté en faisant donc une opération technique qui n'a plus de rapport avec ce qui nous paraît naturel dans l'engendrement, la fécondation, la gestation, l'accouchement, suivi de la filiation. Mais en fait, donc les auteurs de plusieurs articles présentent au contraire des arguments qui vont dans le sens de dire que ces NTR biologisent la parenté. Alors, dans son article, toujours elle, sur la maternité partagée chez les couples de lesbiennes, Elixabeth Imas prend plusieurs exemples. Et donc, par exemple, la méthode ROPA pour les couples lesbiens, c'est-à-dire, en fait, on implante l'ovule fécondé d'une des mères dans l'utérus de l'autre, pour qu'il y ait, en quelque sorte, une relation biologique avec chacune des mères. Un autre phénomène aussi, c'est l'induction d'allaitement chez la mère qui n'a pas porté l'enfant, donc comme pour partager donc, l'expérience corporelle de la maternité. Et donc, est-ce que ces pratiques ne sont pas le signe d'une volonté d'inscrire la parenté dans le biologique ? Et alors là, on peut éclairer donc, les exemples de cet article avec les mots d'Henrik Porkeres dans son article à lui qui s'appelle « Corps relationnel, inceste et parenté ». Le référent corps jouit d'un statut de vérité particulier qui n'est pas partagé avec d'autres. Et donc, on comprend ainsi la volonté de ces femmes d'inscrire, on voit qu'elles inscrivent la parenté dans le corps comme si finalement le corps était un référent plus stable pour s'approprier, encore une fois selon le mot d'Henrik Porkeres, son enfant. Et alors, autre chose, Henrik Porkeres souligne que, je vais le citer, la modernité génétique et biotechnologique, tout en promouvant des types pluriels d'appropriation des enfants du don, ne cesse pour autant de décliner une différence entre les enfants qui seraient les enfants génétiques des deux membres, ou d'un des deux, et les enfants qui seraient nés d'un tiers. Donc on comprend ici on a une insistance sur l'importance, pour ces gens qui recourent à CNTR, sur l'importance d'avoir un enfant à soi, et donc une préférence, par exemple, de l'utilisation de la PMA par rapport à l'adoption pour certains couples infertiles. Et Henrik Porkeres affirme encore que, bien que soumis à des appropriations diverses, les êtres de la parenté s'inscrivent dans une grammaire de la propriété assez restreinte, qui doit beaucoup en fait au corporel. Les articles soulignent que c'est pas vraiment une biologisation au sens strict, c'est pas vraiment un retour à la biologie, parce que par exemple, déjà il y a une défense quand même de la parenté comme parenté pratique, comme parenté projet. Par exemple ces mères lesbiennes étudiées par IMAS, le biologique ne fait pas tout, et la place accordée au sperme dans le façonnement de l'identité de l'enfant est minimale. Et en fait, le paradoxe, c'est que, selon IMAS, le biologique acquiert un caractère artificiel et devient une substance instrumentalisée au service du désir d'être mère. Et elle souligne d'ailleurs, elle remarque par ailleurs que les couples lesbiens qui induisent l'allaitement ou font des méthodes repas, c'est plus un moyen de confirmer la relation conjugale, de maintenir le partage des tâches conjugales autour de la reproduction, que de confirmer la relation filiale, en fait. Et alors, de la même manière, j'aimerais développer rapidement un détail intéressant d'un article. C'est un détail que j'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est dans l'article de Delphine Lance, Mettre à distance la maternité. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que les femmes, elles présentent des femmes qui offrent leur service de gestation pour autrui en Ukraine et aux États-Unis. Et ces femmes gestatrices mettent à distance certains côtés corporels de l'engendrement, donc notamment l'allaitement, parce qu'elles ne veulent pas de proximité, de corps à corps avec le nouveau-né d'une autre. Mais à côté, sur des forums dédiés à la GPA, donc ces femmes porteuses discutent de la pratique qui apparaît en fait pourtant très biologisante de manger son placenta, et en fait la défendent de manière très originale. En fait, on voit bien la réinterprétation ici. Alors pour elle, c'est pas un moyen de communier avec sa maternité, sa féminité, ou voilà. C'est un moyen de se réaligner avec leur corps et un moyen d'aider le corps à comprendre qu'il n'y a pas de bébé après l'accouchement. C'est parce que c'est un phénomène que certaines décrivent comme très étrange, et selon elle, cette étrangeté est inscrite dans le corporel sur le mode du « le corps a du mal » avec le fait d'être privé de bébé après l'accouchement. Et alors Delphine Lance, parle donc de manipulation symbolique qui spatialise le corps et définit ses limites. Et donc on voit donc bien là, à travers cette formule, que le corps, selon Henrik Porkeres, est le terrain de négociation de la parenté, pour beaucoup d'enquêtés cités dans les articles. Troisièmement, donc ces circulations de matériaux reproductifs et ces réinterprétations du sens donné au biologique prennent aussi sens dans un contexte qui est beaucoup plus global, qui est celui souligné par l'ensemble des articles de ce numéro, qui est celui de la globalisation des biopolitiques de la reproduction. Et on a une interrogation sur les effets de cette globalisation des biopolitiques de la reproduction. Déjà, les articles insistent dans leur ensemble sur la divergence des contextes nationaux. Ils offrent un panel de contextes nationaux très diversifiés. Pour tous les citer, on a la France, l'Inde, l'Iran, l'Israël, l'Espagne, l'Italie, la Norvège, les États-Unis et l'Ukraine. Et donc l'ensemble des articles permet d'avoir une vision de ce que sont des divergences au niveau international dans ces biopolitiques de la reproduction. Par exemple, on a des pays qui encouragent le don d'ovocytes en Espagne, contre ces pays qui l'auraient prouvé jusqu'à récemment, donc la Norvège, étudiée par Marit Melus. Ces pays qui préfèrent le don de sperme, donc comme la Norvège, qui défendait une spécificité des gamètes femelles, versus donc ces pays qui encouragent le don d'embryons, comme l'Iran. Et en fait, certains articles insistent sur l'importance des contextes nationaux et des institutions locales existantes qui régissent en fait la parenté et la reproduction. Et donc, en Iran, c'est donc le cas d'Iran étudié par Shirin Naef dans Legal Status, Moral Values and Cosmological Order, Embryo Politics in Iran. Donc en Iran, donc, le don d'embryon apparaît relié à ces institutions déjà existantes qui sont régies aussi par la loi religieuse, qui régissent la parenté et la reproduction. Et donc notamment, elle insiste sur le fait qu'on réprouve l'usage du don de sperme implanté in utero parce que c'est assimilé à de l'adultère, en fait. Et donc du coup, on va notamment préférer le don d'embryon d'un couple marié à un autre couple marié. Par exemple, c'est une solution qui est très adoptée. Et enfin, donc une problématique qui traverse beaucoup d'articles, c'est le fait, justement, que dans ces contextes nationaux divergents, les individus ont une marge de manœuvre assez forte qui leur permet de circuler donc de manière transnationale pour bénéficier de ces technologies reproductives si elles ne sont pas disponibles dans leur pays. Donc Giulia Zanini parle dans son article donc, du contexte italien. Sur le contexte italien, elle parle de voyageurs reproductifs. Donc au plan international, donc, il y a notamment des acteurs qui jouent un large rôle, donc, comme les banques de sperme privées que j'ai abordées. Mais là, j'ai envie de développer surtout donc, l'article, donc, votre article, Laurence Brunet, sur le droit dans les contextes nationaux qui en fait, est mis au défi face au NTR. Et justement, donc, votre article s'intitule « Assistance médicale à la procréation et libre circulation des personnes, le droit français au défi ». Et donc vous précisez que la législation européenne permet en fait, enfin elle prévoit en quelque sorte qu'on contourne les législations nationales parce qu'elle instaure la libre circulation des personnes, de fait. Donc y compris pour bénéficier de traitements particuliers médicaux dans certains pays. Donc en fait un certain nombre, alors c'est un nombre inconnu, mais de ressortissants français fréquentent notamment des centres d'AMP à l'étranger, notamment pour le don d'ovocytes. Et d'ailleurs, vous soulignez que l'assurance maladie se voit plus ou moins obligée de rembourser partiellement certains de ses soins parce que, au nom de la liberté, en fait, qui est garantie par le droit européen, de bénéficier de soins à l'étranger lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles en France dans un délai raisonnable. Et vous vous penchez aussi sur la controverse autour de la reconnaissance d'enfants nés par un traitement d'AMP interdit en France, et notamment donc, jusqu'en 2014, la reconnaissance d'enfants nés de GPA à l'étranger, vous voyez, très compromise. Et donc, en fait, on referait, donc, comme tu l'as souligné, Laurine, de traduire les états civils. Et cette jurisprudence donc, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme en juin 2014. Et donc là, vous soulignez que, en fait, donc, là, on se voit obligé de reconnaître un état civil, même si on ne reconnaît pas, justement, pas forcément la filiation par l'autre parent, qui n'a pas de filiation biogénétique avec l'enfant, mais donc vous soulignez que dès lors que l'enfant a droit à un état civil, donc c'est les principales barrières qui régissent l'accès à la GPA, donc à ces nouvelles technologies de reproduction, sautent, donc dues à la globalisation. Donc en conclusion générale, ce numéro donc sur le corps reproductif est donc avant tout un numéro sur les transformations du corps reproductif par les NTR dans un contexte globalisé. Donc il insiste particulièrement sur cette question de la circulation des matériaux reproductifs, des substances de la parenté, entre les personnes, mais aussi dans un contexte international. Et il s'interroge donc sur ce rapport au corps que ces NTR créent. Et donc les articles de ce numéro remettent en cause les fantasmes en fait, que font naître ces NTR, en soulignant notamment que plus que transformation radicale du rapport au corps chez les utilisateurs de NTR, il y a une relecture du sens accordé au biologique et qui est notamment modelée par ce projet parental porté par l'individu. Et alors j'aimerais finir par poser trois questions aux articles. Alors premièrement, donc, c'est un numéro qui porte sur le corps reproductif, donc, sur, enfin, qui porte de manière, enfin, qui s'intitule de manière générale le corps reproductif. Mais en fait, l'expérience qui est développée, c'est l'expérience du corps reproductif qui est celle d'une minorité, qui est celle de ceux qui recourent à la GPA, la PMA. Justement, je me demandais ce qu'on pouvait faire de ça ce qui m'aurait intéressé aussi, c'est peut-être une réflexion sur le fait que est-ce que c'est un usage déviant du corps de recourir à la PMA, à la GPA, et le rapport entre usage légitime du corps reproductif et usage déviant du corps reproductif. Voilà, donc je ne sais pas ce qu'on pourrait faire de ça, mais je soulève. Voilà. Aussi, il y a beaucoup d'articles sur les homoparentalités, et surtout les homoparentalités lesbiennes, c'est quelque chose qui a eu beaucoup de succès parmi les auteurs de ces articles. Et justement, du coup, il n'y a pas énormément d'articles qui portent vraiment spécifiquement, enfin, il n'y a pas d'articles en fait, qui portent vraiment spécifiquement sur la parentalité gay, alors que justement, il serait peut-être intéressant de réfléchir sur le rapport au corps entretenu, encore une fois, donc, par cette forme de parentalité, parce que donc, les biotechnologies utilisées pour procréer sont différentes. Et justement, je me disais en lisant donc, l'article d'Elixabeth Imas, est-ce que cette forme d'investissement corporel de la parenté qu'elle décrit pour les lesbiennes, est-ce que les parents gays investissent aussi la dimension corporelle de la parenté, et de quelle manière, en quoi c'est différent, voilà. Ensuite, ce qui m'aurait intéressé, c'est d'avoir des articles qui comparent parentalité homo et hétéro vis-à-vis de ces nouvelles technologies de la reproduction. Et notamment dans cet article donc sur les banques de sperme, on dit qu'on a avant tout un désir de normalité pour ces mères lesbiennes, mais qu'en est-il des parents hétéros ? Est-ce qu'ils adhèrent plus complètement à cette idéologie de la transmission génétique qui est promue par les banques de sperme, ou est-ce qu'ils adhèrent pas du tout ? Donc, ça reste une question qui m'intéresserait. Et troisième question, pour la question du don de gamètes, donc les enquêtés sont les parents d'intention, les donneurs, donc en fait qui ont sensiblement le même point de vue sur l'anonymat. Et une dimension qui serait peut-être intéressante à explorer, c'est celle du point de vue des enfants du don, parce qu'on sait qu'ils sont susceptibles de peut-être de défendre une levée de l'anonymat pour la question du don de gamètes. Voilà.